Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Bonsoir à tous, un mardi politique consacré ce soir à la France, à l'heure de la riposte, le président en général en chef du pays, avec un renforcement de l'arsenal répressif sans précédent, la riposte aussi qui se dessine à l'international, et puis à cette France en état d'urgence avec une campagne pour les régionales qui a changé de visage. Tout ça, on en parle avec notre invité ce soir, François Lamy, député socialiste, membre de la commission de la défense, porte-parole du candidat socialiste à la région Nord-Pas-de-Calais. Et Picardie, bonsoir.
Bonsoir.
Avec nous sur ce plateau, Roselyne Fèvre de France 24 et Nathalie Rollin pour Libération. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, assignation à résidence, déchéance de nationalité, légitime défense des policiers, révision constitutionnelle pour adapter l'état d'urgence au terrorisme de guerre, renforcement des moyens de la police et de l'armée. François Lamy, François Hollande, c'est toujours un président de gauche?
Bien sûr, parce que la sécurité des Français, c'est un droit. Bon, et c'est pas ni de droite ni de gauche. Lorsqu'on est de gauche, on est pour que les Français vivent en sécurité. Bon. Ouais. Et donc à partir de là, une situation qui est exceptionnelle, mais dont on sait très bien qu'elle peut se reproduire demain, dans 3 mois, dans 6 mois, parce que la lutte contre Daesh, elle ne sera pas terminée dans les jours qui viennent. On sait que ça va être long. Bon, et donc il faut qu'on soit en capacité d'adapter dans le respect du droit. Parce que ça, c'est peut-être ce qui fait la différence politique, c'est en conservant nos libertés publiques, le fait d'adapter notre arsenal législatif pour pouvoir mieux répondre aux phénomènes terroristes,
ouais.
Avec l'évolution de sa nature aussi. Voilà, on voit bien que c'est plus les mêmes attentats qu'il y a 10, 15, 20 ans, c'est plus la même chose, quoi.
Sauf que François Lamy, tout le monde l'a relevé, hein, le président a repris à son compte des propositions formulées par la droite, même par le Front National, puisque le Front National salue de bonnes inflexions du président. Il y a même pas mal de cadres au FN qui parlaient de victoire totale pour le parti. Franchement, ça résonne pas étrangement à vos oreilles. C'est gênant, non, pour vous?
Mais moi, je sais aussi, je connais les habiletés politiques des uns ou des autres. Voilà, à vouloir dire tout d'un coup, c'est moi qui avais initié. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est de savoir si les mesures.
Donc vous reconnaissez que ça avait été initié par.
Oui, mais peut-être que l'une des mesures, d'ailleurs, sur lesquelles il y aura certainement débat, hein, sur la question des binationaux et sur le fait de la déchéance de la nationalité pour quelqu'un suspecté ou accusé de terrorisme. Je pense que le débat parlementaire permettra peut-être à la fois d'éclairer ce que ça veut dire, les questions que ça soulève. Bon, donc voilà, mais c'est pas la mesure principale. Moi, ce qui m'a intéressé hier, c'était le fait d'une part que il y a eu des annonces très très concrètes en termes de recrutement, à la fois de forces de sécurité, mais aussi et surtout ce qui était pour moi important dans la justice, parce que aussi bien en termes de magistrats que de personnel pénitentiaire. Bon, et puis le fait aussi qu'on veuille adapter notre droit. Bon, et moi j'ai bien écouté le président de la République. J'ai relu ce matin son discours sur le fait que on a, entre autres, par exemple, sur l'état d'urgence. Vous le voyez bien, quelque chose qui n'est pas bien adapté. On a un état d'urgence sur 12 jours, et puis avec contrôle du Parlement, puisque c'est le Parlement qui autorise le fait de la prolongation. Et là, finalement, on va avoir un état d'urgence pendant 3 mois, sans que le Parlement ne soit de nouveau saisi. Bon. Et puis, vous avez quand même un terrorisme qui maintenant se sert des nouvelles technologies, qui, à l'époque de la loi de 55, qui n'avait pas, bien entendu, ni l'ordinateur, ni Internet,
qui définissait l'état d'urgence, voilà.
Bref. Donc il faut qu'on adapte l'ensemble de cette législation et qu'on donne surtout aussi aux forces de sécurité et à l'armée les moyens nécessaires pour à la fois protéger les Français aujourd'hui et mener le combat contre Daesh aujourd'hui et demain, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que malheureusement ça va être long.
Roselyne Fèvre, France 24.
Oui, donc en gros on remplace à gauche l'idéologie par la sécurité et ça visiblement tout le monde l'assume, en tout cas pour l'instant. Mais ce que disait Anissa il y a quelques instants, c'est que dans le fond ce sont des propositions de droite et de l'extrême droite. Est-ce que ça peut s'avérer payant tactiquement, électoralement?
C'est pas l'objectif.
J'entends bien, mais
c'est à vivre
politiquement aussi.
J'ai pas l'impression d'avoir renoncé
à
l'idéologie au profit. Voilà, moi j'ai toujours été, de ceux. Je suis ni angélique ni naïf. La sécurité des Français, il faut l'assurer. La menace, elle a évolué. Moi, ce que je regarde, c'est si les propositions du président de la République et les décisions qu'il a prises sont conformes à la fois à l'objectif, à savoir assurer la sécurité des Français, et conformes aussi aux valeurs que je porte en étant de gauche. Et ça sera l'objet du débat parlementaire. Moi, je pourrais être critique sur une telle ou telle mesure, mais je pense qu'aujourd'hui, c'était pas moi ce qui m'importe, c'est est-ce que la réponse globale que le président a apportée hier était à la hauteur de l'événement? Et la réponse est oui.
Nathalie Rollin, Libération.
Alors, vous parlez de réponse globale, mais enfin, on peut quand même un petit peu rentrer dans les détails. Il a notamment parlé de la possibilité de déchoir de leur nationalité un certain nombre de Français qui commettraient ou qui seraient soupçonnés d'actes terroristes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette mesure un peu générale risque de faire des citoyennetés à plusieurs vitesses en France?
Mais ça, c'est effectivement une question qui se posera au moment du débat. D'abord, regardons après la réalité de la mesure telle qu'elle va nous être proposée par le gouvernement. Moi, j'ai croisé, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas à l'heure actuelle d'avis tranché sur cette question. Je ne suis pas choqué par le fait que tout d'un coup, un binational qui part en Syrie, qui s'entraîne et qui revient ici en France, qu'on puisse être en capacité de lui retirer sa nationalité pour ne plus l'accueillir sur le territoire. Oui, ça ne me choque pas. Bon. Et en même temps, j'ai conscience de ce que ça veut dire, là pour le coup sur les principes, qu'est-ce que ça veut dire de tout d'un coup de retirer la nationalité française à quelqu'un qui est né sur le sol français, puisque ça fait le droit du sol, c'est effectivement ce qui constitue voilà la différence avec d'autres pays qui ont le droit du sang, ça fait partie de nos valeurs de la République.
Donc la gauche a perdu son angélisme.
Non, ça
pas
veut
plus
dire
tard
que
qu'il y a quelques
face à, face,
jours.
C'est oui, mais là, je veux dire, moi j'ai jamais été angélique, donc là-dessus rassurez-vous, j'ai rien perdu. Mais voilà, cette question, je sais, j'ai croisé certains de mes collègues qui s'interrogeaient. Eh bien, on va en débattre. Voilà, tout simplement. Mais ça ne me semble pas être la mesure principale.
Mais alors,
celle
d'une manière
qui est plus importante, je crois, c'est celle qui est à la fois, je vous dis là encore, sur les recrutements, sur les moyens, parce que ça c'est vraiment important et il faut que ça aille vite. Le fait qu'on puisse dire cette phrase qui résume le discours du président, que le pacte de sécurité remplace le pacte de stabilité, je crois qu'elle résume bien son discours. Ça c'est ce qui me semble le plus important. Et ensuite le fait qu'on adapte notre législation, et là il y aura du débat parlementaire, comme bien entendu. Bon. Et moi, peu importe de qui vient la proposition.
D'accord. Mais alors sur les.
Peu qu'elle soit juste.
Même sur l'état d'esprit général, vous l'avez forcément vu, les syndicats de magistrats comme le syndicat de magistrature ou d'autres organisations classées à gauche, le syndicat des avocats de France s'inquiète qu'on touche aux libertés fondamentales, s'inquiète de la prolongation de l'état d'urgence. Cécile Duflot disait hier soir au Parlement, aux réunions en congrès, on ne touche aux libertés publiques qu'en tremblant. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a largement déplacé le curseur et qu'on peut être aussi dans une forme d'état d'esprit du fameux patriotisme?
Non, mais là,
dont on avait parlé
savoir,
après le 11 septembre.
Faut savoir raison garder. Bon. Les seules libertés auxquelles on s'attaque, c'est celles des terroristes. Voilà. Point.
L'état d'urgence, c'est la liberté de se déplacer, la liberté de se réunir, de manifester.
Oui, c'est dans l'état d'urgence. Mais attendez, personne ne va reprocher au président de la République d'avoir pris la décision qu'il a prise, à savoir de décréter l'état d'urgence. Après la violence des attentats subis à Paris, et après les risques qui existent, qui perdurent, est-ce que vous savez, vous, s'il n'y a pas une, deux, trois équipes normandes qui sont présentes et qui peuvent de nouveau taper le territoire français? Regardez, il y a une vague de perquisitions qui sont sans rapport avec l'enquête, bon, et à Lyon, on trouve un lance-grenade, bon, un lance-roquette plutôt, pardon. Une arme de guerre qui peut faire des dégâts immenses. Bon, donc ça me semble pas le fait que le président de la République ait adopté décrété l'état d'urgence me semble être une bonne chose. Bon, et en même temps, à l'intérieur de cet état d'urgence, les préfets n'ont pour l'instant interdit que les manifestations, et encore en région Île-de-France, les manifestations publiques, que jusqu'à ce soir, bon, ou demain matin, bon, et ils ont dans l'arsenal rien. Depuis dans les décisions qui ont été prises, rien ne nuit aux libertés des Français depuis vendredi soir.
Mais fallait-il autant donner un statut constitutionnel à l'état d'urgence ?
Mais la question, le problème, c'est que la loi de 55, elle a été adoptée avant la Constitution. Bon. Et qu'on se retrouve dans une situation où cette loi mérite à la fois d'être toilettée, bon, et oui, le fait que vous avez l'état de siège à l'intérieur de la Constitution, oui, qui existe, vous avez l'état
d'urgence. Réunir l'article 16 et l'article 36.
Voilà, et pour l'instant, entre les deux, il n'y a rien, bon, qui soit un peu plus, qui soit un peu plus pérenne et un peu plus à la fois efficace, surtout, le président de la République l'a encore dit hier, sans toucher à nos libertés publiques fondamentales. C'est tout l'enjeu du débat parlementaire, c'est à ça que va servir le Parlement d'ailleurs. Bon, lorsqu'il va y avoir ce projet de loi, attendons le projet de loi. Oui. Mais vous voyez, par rapport à ce qui s'est passé vendredi, et moi j'essaie de regarder, je vois mes concitoyens que je rencontre, je voyais encore ce matin, bon, vers les débats chez les Français, c'est pas de savoir effectivement s'il faut changer ou pas la Constitution. Oui. Ça c'est le problème des politiques. Oui. Bon, les questions qui sont soulevées, les cris d'orfraie des uns et des autres, pour l'instant, honnêtement, ça les concerne pas. Ce qu'ils veulent, c'est que leur sécurité soit assurée, et c'est bien normal, parce que voilà, l'attentat les attentats de vendredi, ça a été dit, ça devient trivial de le redire aujourd'hui, c'est monsieur tout le monde, quoi.
Et mais véritablement, est-ce que cette sécurité peut être assurée, quelle que soit les mesures?
À 100%, bien sûr que non.
Comprennent.
À 100%, bien sûr que non. On peut pas tout, voilà. Mais il y a des attentats qui ont
été déjoués. Et est-ce qu'on va pas troquer finalement la proie pour l'ombre, la liberté pour une sécurité improbable?
Pour l'instant, aucune liberté des Français n'a été touchée. Mais citez-moi une liberté qui aurait tout d'un coup, depuis vendredi, aurait été touchée. Il n'y en a pas eu.
Alors, on va.
Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi, on accuserait le président de la République ou le gouvernement ou la gauche tout d'un coup de vouloir attenter aux libertés. Je vois bien. La petite musique par derrière, bon, qui consisterait à dire tout d'un coup, on veut pour des raisons électorales ou c'est pas ça l'objet. Je veux dire, admettons quand même de temps en temps que
pourquoi la droite
les politiques
s'y oppose,
essaient aussi de prendre des mesures qui s'adressent aux problématiques soulevées. Bon, voilà, par la période et qui concerne les Français.
Quoi. Alors, il y a quand même des propositions qui sont sur la table. Hein. Certains à droite parlent du port du bracelet électronique pour tous les fichiers S sûreté, d'assignement à résidence. Laurent Wauquiez a proposé, par exemple, que tous les djihadistes de retour de Syrie soient internés dans des centres spéciaux. Vous, sur chacune de ces propositions, vous êtes pour, vous êtes contre, vous en pensez
mais
quoi?
Mais là, le gouvernement, je crois, a soumis l'ensemble des propositions au Conseil d'État pour les vérifier. Cet après-midi, par exemple, sur le port du bracelet électronique pour les fichiers S, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a répondu que c'était inconstitutionnel et qu'il n'en était pas question. Il aurait même pu dire, mais il n'avait que deux minutes pour le faire, que c'était pas opérationnel non plus.
C'est bon. Voilà, pratiquement.
Et toute la question, et je crois qu'il l'a dit plusieurs fois, cette fameuse fiche S, voilà, elle sert à déclencher une surveillance qui doit déboucher éventuellement sur des procédures. Donc, je crois que là, il y en a certains qui est là pour des raisons électorales. Cherche ou pour essayer de remonter dans l'opinion, il y a une sorte de course à l'échalote et de foire aux fausses bonnes idées.
C'est le cas de
Laurent Wauquiez. Et ça concerne des fois d'ailleurs des gens de mon camp, hein. Bon, parce que l'histoire du bracelet électronique, elle a été évoquée aussi par des parlementaires de gauche. Non, on reste dans le cadre du droit. Je crois que le gouvernement a été très clair, très 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 ferme là-dessus. Et je lui fais confiance pour qu'il en soit ainsi, y compris dans les propositions.
Alors Manuel Valls a dit sur le bracelet électronique, il y avait un problème de droit, que le Conseil d'État allait s'y pencher pour analyser les conventions, non pas à l'intérieur de notre pays, mais les conventions internationales.
Bien sûr, et puis parce que le fait d'être fichier S ne veut pas dire pour autant que vous êtes coupable. Et moi, ce qui me semble important, on entend les déclarations, il y a beaucoup d'experts, voilà, moi j'en entends un en tout cas qui me semble le plus sérieux, qui est Marc Trévidic, qui lui-même voilà, a enquêté sur les problèmes terroristes, et qui voilà, souligne dans les mesures qui ont été prises ce qui est le plus important, à savoir donner des moyens supplémentaires à la justice. Parce que s'il y a eu un problème ces dernières années, il est là. Bon, on peut pas, et je réponds de nouveau à votre question, est-ce qu'on peut tout empêcher? Non, je veux dire, il y a autant d'agents dans le service de renseignement intérieur qu'il pourrait y avoir de potentiels terroristes. Bon. Donc on voit bien que c'est pas tout à fait comme ça. La bataille, il y a une chaîne. voilà, qui va de la guerre menée en Syrie, au Mali, là où il y a des potentiels foyers terroristes, jusqu'à ici la détection du renseignement, dans tout à l'intérieur de toute cette chaîne, il y a quelque chose de très important, c'est la justice.
Parce que on a l'air de redécouvrir aujourd'hui que la justice n'a plus de moyens, alors que ça fait des années que la justice
qu'elle n'a pas,
est un goulot d'étranglement.
On découvre qu'elle n'a pas assez des moyens. Oui.
Mais ça fait très longtemps que les juges le disent. On le sait, et même le gouvernement le sait. Enfin, François Hollande ne l'ignore pas, il ne l'ignorait pas pendant la campagne présidentielle.
Il y a eu des moyens supplémentaires. Il y a des moyens supplémentaires qui ont été donnés.
Voilà.
Oui, tout à fait. Il y a eu des moyens supplémentaires qui ont été donnés à la fois à la justice, mais aussi aux services de renseignement, à la police. La décision du président de la République de ralentir la déflation des armées a été prise aussi au mois de janvier. Donc il y a des décisions qui ont été prises. Voilà, il faut continuer en chemin, mais vous savez, on pouvait pas faire 36 procès à la gauche en même temps, quoi. Hein. Il y avait ceux qui lui disaient, mais il faut respecter le pacte de stabilité, ceux qui disent en même temps, il faut recruter. Voilà.
Enfin, la gauche parlait pas trop du pacte de stabilité.
Aujourd'hui, on s'assoit sur ce pacte de stabilité.
Et je crois que le président de la République l'a dit hier, et il l'a bien fait. Et je pense même qu'il devrait, mais là, on verra dans les contacts qu'il aura avec l'ensemble des pays européens, mais il y a plusieurs fois, la France a posé sur la table des discussions européennes le fait qu'on retire, par exemple, les dépenses liées à la défense du pacte de stabilité, parce que c'est vrai que la défense, les actions menées par la France, elles concernent tous les Européens, et que là, les Européens, pour le coup, si on veut regarder, désigner des fois quelques faiblesses, il y en a beaucoup, quoi.
Juste sur... Nathalie Rollin, allez-y.
Dernière question.
Bon, j'avais une question qui était un petit peu connexe sur les circonstances de l'attentat. La Grande Mosquée de Paris a appelé un rassemblement vendredi contre le terrorisme. C'est une question qu'on s'était déjà posée au mois de janvier et qui revient à nouveau. Est-ce qu'il faut que les musulmans se désolidarisent en tant que tels du terrorisme ou est-ce que c'est pas une forme de stigmatisation finalement, d'amalgame est-ce qu'ils doivent le faire à chaque fois?
Toutes les initiatives sont bonnes. Bon, on est confronté à un terrorisme qui est issu d'une forme dévoyée de l'islam. Voilà. Bon, ce n'est pas l'islam tel que le pratique la plus grande majorité des musulmans de France et même du monde. Bon, voilà, vous avez une petite minorité qui a une forme dévoyée, radicalisée de l'islam. Donc le monde musulman est forcément concerné. Voilà, mais pas que lui. Voilà, c'est l'ensemble de la société française qui est concernée, et y compris, c'est-à-dire revers de la médaille, pour les non-musulmans, la responsabilité, c'est justement de ne pas accabler les millions de musulmans de France au nom d'une toute petite minorité qui serait proche du radicalisme. Bon, voilà. Donc moi, je pense que l'initiative prise par la Grande Mosquée est une bonne initiative. Il y en a plein d'autres, à la fois venant des religieux, mais aussi
des
religieux
laïcs.
Mais toute la société française est concernée. Bon, voilà. Et j'allais dire, malheureusement, le fait que Daesh se réclame de l'islam, même si nous savons que ce n'est pas l'islam tel qu'il est pratiqué par la grande majorité de nos concitoyens, fait que tout à coup, ils sont interpellés. Mais notre responsabilité à nous, politique, c'est bien d'expliquer que ça ne concerne qu'une petite minorité.
Mais justement, ils étaient aussi victimes des attentats.
Bien sûr, mais il faut toujours rappeler que la guerre en Irak et en Syrie fait des milliers de victimes chez les musulmans. D'abord.
Mais est-ce qu'il ne faut pas revoir non plus l'organisation de l'islam de France et se poser sérieusement très rapidement sur le sujet?
Moi, je suis pas spécialiste des cultes. Bon, ce que je sais simplement, c'est vrai qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la religion musulmane.
Donc, pas de clergé,
que c'est plus beaucoup plus complexe. Bon, il y a des choses, et donc s'il y a pas de hiérarchie, il y a y compris une représentation du monde musulman qui est plus compliquée. Voilà, personne ne peut dire tout d'un coup, je parle au nom des musulmans de France.
D'accord, François.
À côté qu'il y a les ramifications en plus avec les pays d'origine.
Il nous reste vraiment 20 secondes. Donc, on va se revoir plutôt pour la deuxième partie de Mardi Politique après les informations. Ce sera toujours avec François Lamy, député socialiste et membre de la Commission de la Défense. À tout de suite.
Vas-y.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. ou sur notre site internet www.rfi.fr. Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Mardi politique, deuxième partie avec notre invité ce soir, François Lamy, député socialiste, membre de la commission de la défense, porte-parole du candidat PS à la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Pierre de Saint-Ignon. Bonsoir à nouveau et avec
Bonsoir.
Nous, Roselyne Fèvre, France 24, Nathalie Rollin pour Libération, toujours. Alors, on va revenir tout à l'heure sur cette campagne des régionales qui reprend officiellement, pardon, ce mercredi, mais avant ça... Oui, qui
officiellement,
reprend...
Non.
Enfin, pas officiellement, vous avez raison, qui reprend ses droits. On a déjà des interviews ce soir, les premiers meetings, effectivement, notamment pour votre région, c'est pas tout de suite.
Non.
On l'a compris. Oh, mais on va y revenir. parlons de la Syrie. On l'a compris hier, hein, lors du discours du président à Versailles, c'est bien désormais Daesh la priorité, l'ennemi, disait le président. Le président qui se rend la semaine prochaine à Moscou rencontrer Vladimir Poutine après avoir rencontré Barack Obama, ça dans le but de construire une seule coalition anti-EI. Alors ça fait des mois que la droite demande de parler aux Russes, de mettre en place cette grande coalition. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les attentats qui vous ont ouvert les yeux? Pourquoi cette volte-face?
Enfin, d'abord, toute la droite ne demandait pas cette grande coalition.
Bon, certains, elle demandait une seule coalition.
Certains à droite considéraient que l'objectif principal c'était Daesh et qu'il fallait rediscuter avec Bachar el-Assad. Voilà. Et y compris soutenir Bachar el-Assad pour qu'il fasse
pas
le
tous.
Travail. Voilà. Bon. C'est pas ce que va faire le président de la République. Faut jamais oublier quand même qu'une des raisons de la naissance de Daesh, y compris le fait que Bachar el-Assad a vidé ses prisons, bon, et qu'il a opéré, et qu'ainsi il y a une jonction qui s'est opérée entre des djihadistes syriens et les rescapés de l'armée irakienne de Saddam Hussein. Donc, ce que fait le président de la République, c'est qu'il trie les priorités. Bon, et là, c'est clair que il y a une urgence. La France a été frappée, et donc, il est nécessaire d'organiser cette coalition internationale. Pour essayer d'éradiquer, comme il l'a dit, le terrorisme, bon, le vaincre, et on sait que c'est complexe.
Et François Lamy, on se demande même simplement comment on organise une coalition alors que personne n'est exactement d'accord justement sur le sort à réserver à Bachar el-Assad.
Vous voyez les choses évoluer, regardez les Russes, qui encore la semaine dernière viennent de reconnaître ce matin finalement que l'attentat qui a été perpétré...
Mais surtout ce qu'ils ont bombardé Daesh aujourd'hui.
Voilà, tout à fait, ça a été la réponse immédiate d'ailleurs,
mais est-ce que
c'était bien
un
attentat, l'avion qui a explosé à la sortie de
Sharm el-Sheikh. Justement, attendez, j'ai une question là-dessus, est-ce que c'est justement parce que les Britanniques et les Américains les ont renseignés, l'ont renseigné.
Je crois pas.
Sur le fait
je crois que les services secrets, les Russes sont suffisamment implantés dans le secteur pour avoir l'information tout seul. Je crois simplement qu'ils ne souhaitaient pas, à un moment, que ça puisse contrecarrer leur politique sur le terrain. Voilà. Mais là, face à l'évidence, ils ont été obligés de le reconnaître. Bon. Donc, et voilà, ça c'est aussi une évolution.
Bon. Certes. Donc, le cas de Bachar el-Assad.
Sur le cas de Bachar el-Assad, pour l'instant.
Sur la solution de sortie.
Non, mais tout le monde sait que ça ne sera pas la solution politique, Bachar el-Assad. Voilà. Il est le responsable de la situation, de ce qui s'est passé. Rappelons-nous quand même, en 2011, la répression des manifestations.
Alors, quel projet politique pour la Syrie
Pour l'instant, on n'est pas dans un monde idéal. Hein. Bon, voilà.
D'accord.
On trie les problèmes et on essaie de trouver des solutions et au fur et à mesure. Là, il y a besoin d'une bataille militaire contre Daesh. Voilà. C'est complexe. Ça ne peut pas être que les Occidentaux. Bon, ça ne peut pas être que l'aviation, bon, et ça va durer.
Non, mais Laurent Fabius disait, on trie des problèmes,
mais moi je suis pas là pour regarder ce qu'ont déclaré les uns et les autres.
Moi,
ce qui m'importe, c'est ce qu'on va faire demain.
Amener ces discussions.
Moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'on va faire demain. Est-ce que le fait, à la fois, de solliciter l'aide de l'Union européenne? Bon, parce que là aussi, c'est la défense de l'Europe qui est en cause et qu'on doit constater quand même que la grande majorité des pays européens ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités face au phénomène terroriste. Et puis, le fait d'avoir cette grande coalition où il faut effectivement que les Russes qui sont présents militairement et politiquement là-bas, bah, soient, fassent partie de cette coalition. C'est ce que va essayer de faire le président de la République la semaine prochaine.
Petite question, est-ce qu'il faut aller jusqu'à rouvrir une ambassade à Damas, comme le demande par exemple François Fillon ?
C'est peut-être un peu tard. Voilà. Moi, j'étais de ceux à l'époque. J'étais de ceux à l'époque. Oui, parce que le geste serait politiquement, symboliquement très fort. Voilà. Bon, et que par ailleurs, il n'aurait pas le caractère opérationnel qu'on lui souhaiterait. Pourquoi est-ce que je pense moi à l'époque, je l'ai dit à l'époque, on n'aurait pas dû fermer l'ambassade ? C'est parce qu'une ambassade, c'est aussi le lien avec l'opposition, c'est aussi de l'information, c'est aussi une présence. Et voilà. Et la France a été très très présente pendant des années en Syrie. Donc c'est tous ces réseaux-là que nous perdions avec l'ambassade.
Alors il va y avoir sans doute une seule et même coalition, ça va se faire je pense très très vite. Est-ce qu'on peut vaincre Daesh si d'autres pays sunnites ne se saisissent pas du problème et des puissances comme la Turquie, l'Arabie Saoudite ou le Qatar, alors le Qatar et l'Arabie Saoudite qui sont dans la coalition, mais bon, c'est un peu mou du genou. Est-ce que elles doivent militairement aller au sol ? Est-ce qu'elles doivent s'impliquer plus ?
Je vais répondre autrement à votre question.
Ah bon ?
Ça ne peut pas être. Non, mais vous allez vite comprendre. Ça ne peut pas être des armées occidentales qui règlent le problème.
Oui, c'est bien pour ça que vous posez.
Bruno Le Maire, par exemple, demande des interventions au sol françaises.
Oui, mais bien sûr. Mais je veux dire, c'est ridicule. C'est juste ridicule de réclamer l'intervention française au sol. D'abord parce que nous n'avons pas les forces pour pouvoir le faire. Bon. Nos forces, elles sont engagées au Mali, sont au Niger, elles sont en Centrafrique, elles sont sur le territoire national. Il y en a plus de 10 000 actuellement, donc nous n'avons pas les capacités.
Et pas occidentales.
Et deux, je veux dire, on n'est pas obligé de refaire les mêmes erreurs à chaque fois. Je veux dire, quand on regarde bien l'histoire de ces 20 dernières années, c'est quand même des interventions occidentales qui ont déclenché le chaos en Irak. Bon, c'est quand même l'intervention de Bush. C'est de Bush fils, parce que Bush père avait eu l'intelligence à l'époque de ne pas le faire. Bon, quand vous regardez le bilan finalement militaire et politique en Afghanistan, jamais des pays occidentaux ne pourront... ils pourront peut-être gagner un jour militairement. Mais après...
J'aimerais qu'il me réponde à la question.
Donc, sur les pays sunnites, donc il va falloir qu'effectivement les pays de la région sunnites, les chiites sont déjà engagés avec l'Iran. Oui, et à un moment il faudra qu'il y ait une coalition des pays de la région pour pouvoir gagner militairement. Oui.
Donc au sol.
Et bien sûr, parce que on sait que voilà la difficulté des frappes aériennes actuellement, c'est que d'abord le territoire est très grand, deux, à un moment quand Daesh a changé sa façon d'intervenir sur le terrain, bon, donc il faut couper ses sources d'approvisionnement, il faut couper son financement, bon, mais il y a un moment où il est au cœur de la population, bon, et que oui, dans ces cas-là, c'est une intervention terrestre qui sera nécessaire, mais mettons pas la charrue avant les bœufs. Pour l'instant,
quand on parle de couper les financements, vous pensez à quoi ? Il y a notamment le fameux pétrole de Daesh, dont on sait qu'il passe notamment en Turquie.
Par la Turquie, voilà. Et donc, c'est avec les Turcs qu'il faut que l'on règle cette affaire. C'est à tout cela qu'il va falloir
clarifier les rapports avec l'Arabie Saoudite et le Qatar.
Tout ceci, vous êtes bien placé ici pour le savoir, le monde est complexe. Voilà, et les réponses ne se font pas en claquant des doigts. Bon, donc c'est ce à quoi va travailler le président de la République au sein de cette coalition et cette guerre, puisque il a dit qu'il à juste titre qu'il nous allions la gagner. Bon, elle doit être menée sur tous les fronts et sur le front extérieur, c'est couper les financements, c'est couper les sources d'approvisionnement, c'est couper les armes y compris. Bon, puisqu'il doit forcément y avoir aussi des livraisons d'armes. Et puis, c'est de taper. Regardez. Pour l'instant, il y a eu quand même les frappes aériennes ont permis, entre autres, de reprendre la ville de Sinjar, qui a coupé en deux entre Raqqa et Mossoul. Donc voilà, il y a quand même des effets positifs des frappes aériennes. Mais on sait très bien que c'est une réponse globale qui permettra d'éradiquer le problème.
On passe au régional, avec cette campagne qui reprend donc doucement, qui va reprendre doucement dans les prochains jours, parce que le premier tour est quand même dans deux semaines et demie. C'est plus la même France, un pays en état d'urgence, suspendu au dernier développement de l'enquête, donc c'est plus la même campagne. Qu'est-ce que vous dites aux Français aujourd'hui?
Dans un premier temps, on va certainement plutôt les écouter. C'est ce qu'on fait d'ailleurs depuis vendredi, parce qu'il y a un besoin de parole. Voilà, les citoyens veulent comprendre ce qui s'est passé. Et l'état de choc, il n'est pas encore retombé. Bon, donc je crois qu'il y a besoin d'écoute des citoyens, il y a besoin de dialogue avec eux, bon, de façon à faire passer un certain nombre de messages, y compris de dire que si la France a été touchée, elle est toujours vivante, et si les terroristes ont attaqué des symboles, justement, culture, le sport, l'envie d'être ensemble, les terrasses de café, et ainsi de suite, tout ce qui fait un peu notre joie de vivre, façon d'être français, bon, faut pas renoncer, faut pas céder, voilà. Bon. Et puis surtout, il faut pas tomber dans les bras de ceux qui pensent que la réponse c'est la stigmatisation, c'est de pointer du doigt les autres, c'est la division des Français.
Alors le candidat,
je pense à ça, à Marine Le Pen,
socialiste, voilà. Pierre de Saint-Aignan voulait régionaliser la campagne dans le Nord-Pas-de-Calais pour essayer de valoriser les dossiers locaux et
c'était
aujourd'hui
ça, c'était sa plus-value.
C'était sa plus-value face à. Bah,
heureusement d'ailleurs que dans une élection régionale, on allait parler de problèmes régionaux. Quoi.
Aujourd'hui, la campagne elle est clairement nationale, nationalisée par les événements puisque tout le monde a les yeux rivés sur les chaînes d'infos en continu et sur Paris. Comment vous allez gérer ce changement?
Je crois qu'on est en train d'y réfléchir, mais tout l'enjeu, c'est effectivement dans ces deux semaines et demie, donc c'est très très court, d'expliquer aux Français que le projet qui est présenté par Pierre de Saint-Aignan, même s'il était très régional, il y a aussi un fil conducteur. Vous savez, son slogan, c'est pour vous. Et c'est pas pour rien que ce slogan a été trouvé, c'était de dire le fait que Pierre de Saint-Aignan, son souhait, c'est de s'occuper réellement du problème des citoyens, en termes d'emploi, en termes de transport, en termes de culture, d'éducation des enfants. Bon, et ça, c'est des problèmes que vont traiter les conseillers régionaux nouvellement élus pendant 6 ans. Bon, donc, mais le fil directeur, c'était « je vais m'occuper de vous ». Bon, et là, s'occuper de vous, c'est aussi prendre en compte vos peurs, vos interrogations, vos colères, par rapport à la situation.
Donc, mais la sécurité n'est pas de la compétence de la région, donc
on l'expliquera aussi. Oui. Voilà, mais par contre, le vivre ensemble, le fait de rejeter toutes les idéologies de stigmatisation, de division, ça relève des élus politiques et des élus régionaux. Et c'est le fil conducteur de sa campagne. C'est le fait de dire, nous n'acceptons pas que cette région soit dirigée par ceux
qui prônent
cette idéologie de rejet de l'autre.
Politique. Elle va favoriser qui dans votre région? Le FN, Marine Le Pen,
Xavier? Elle est très en confiance, on l'a senti ce week-end.
Moi, écoutez, on verra ça le jour du vote. Voilà. Nous, ce qui est important, c'est qu'on explique aux Français, d'abord qu'il faut voter. Parce que ça, c'est la meilleure des réponses au terrorisme. C'est, vous avez une élection démocratique. Ils ont, d'ailleurs, certains se posaient la question de savoir s'il fallait repousser les élections régionales. Moi, j'étais pas pour. Voilà, il fallait pas qu'on cède au terrorisme. On a une élection. Il n'y a pas tant de pays que ça dans le monde qui ont des élections libres, transparentes. Donc il fallait que ces élections aient lieu en date et en heure. Donc, allez voter. Voilà, parce que ça, c'est un droit que n'ont pas les autres. Bon. Et puis, la deuxième chose, c'est voter pour ceux qui ont un projet, des idées pour votre quotidien, bon, dans une région qui est en grande difficulté, mais qui a en même temps su relever la tête depuis plusieurs années, y compris en matière d'emploi. Vous savez que c'est la première année qu'on crée plus d'emplois en Nord-Pas-de-Calais qu'on en a détruit. Voilà. Et bon, donc tout ce qui a été fait par la région produit ses effets. Voilà. Et Pierre de Saint-Aignan a été au cœur de cette bataille puisqu'il était premier vice-président chargé du développement économique. Bon. Voilà, donc on va tâcher de faire le lien. C'est pas toujours facile, mais ça sera pas toujours facile, mais c'est important, surtout dans cette région-là.
Roselyne Febvre.
Oui, Tony Blair avait, les Anglo-Saxons avaient inventé la notion de triangulation, c'est-à-dire faire la politique de l'adversaire. Et pour cela, eh bien souvent, c'était vecteur de victoire politique. Aujourd'hui, on va dire que François Hollande propose de faire la politique que l'adversaire propose.
Je crois pas en l'occurrence. Ça.
Mais si, puisqu'il a pris les idées de Nicolas Sarkozy, il a dit qu'il s'en inspirerait quand.
Mais que le président de la République prenne dans un climat comme celui-là, prenne des propositions et les étudie de l'opposition. Quand on réclame l'Union nationale, c'est pas uniquement du gadget, c'est que nécessité.
Ça
veut pas dire
pas
pour autant.
Finir.
Voilà.
Mais donc c'est tactiquement intelligent. C'est tactiquement, ça peut être porteur de, ça peut couper le pied sous l'herbe sous le pied de Marine Le Pen. Est-ce que vous le croyez, ça? Est-ce que ça peut marcher?
Je crois pas que c'était l'objectif principal du président
un
de la République.
Un homme politique, moi, pense je vais vous politique, dire en même temps. Il dort politique, il se rase politique.
Oui, mais moi, oui.
Il est interdit d'être habile.
Tout à fait. Mais moi, je fais aussi de la politique et je pense que la montée du Front National, on pourrait disserter pendant des heures sur les raisons. Mais une des causes, c'est justement quand les Français ne reconnaissaient plus la différence entre la gauche et la droite. Voilà. Bon, ouais. Lorsqu'on n'était plus sur le terrain des valeurs, lorsqu'on n'était plus en capacité d'être sur le terrain de nos convictions, à chaque fois qu'on a reculé sur nos valeurs et sur nos convictions, tout d'un coup, on laissait Marine Le Pen monter. Voilà. Donc moi, je crois au clivage droite-gauche. Ça me semble d'ailleurs, c'est pas même dans la période actuelle. Je crois que citoyens ont besoin de savoir qui ils ont en face d'eux. Voilà. Et à chaque
pour
fois
revenir à un débat pré-attentat, on parlait beaucoup justement de ces fusions techniques de liste. Quels citoyens s'y retrouvent justement?
Oui, mais j'en ai jamais parlé, les fusions techniques de liste. Voilà, je crois à la clarté. Il y a un projet dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il y a un projet de droite, c'est celui de Xavier Bertrand. C'est mettre la région au travail, comme s'il l'avait attendu pour se mettre au travail. Bon. Vous avez l'extrême droite et vous avez un projet de gauche avec celui de Pierre de Saint-Aignan. Voilà, il est clairement posé sur la table. Donc les gens peuvent s'y reconnaître. Bon, et en plus, il y avait les résultats.
Voilà, bon. Quelques semaines auparavant, on avait compris que vous n'étiez pas particulièrement demandeur de l'avenue du Premier ministre dans la région. Aujourd'hui, la plupart des sondeurs se disent que le même phénomène qu'après janvier risque de se reproduire dans l'opinion, c'est-à-dire un regain de popularité de l'exécutif. Est-ce que du coup, finalement, une venue du Premier ministre, pourquoi pas avant le premier tour?
Mais vous savez, j'ai jamais cru. Un meeting, ça sert à mobiliser les militants. Voilà, ça ne fait pas gagner une voix. Hein. Bon. Et le Premier ministre le sait bien, ça participe, lorsqu'il se déplace sur un territoire, ça participe d'un discours ambiant. Et moi, je crois que le Premier ministre, il est actuellement beaucoup plus utile à Paris. Pour mener la politique qu'il mène, voilà, pour répondre à l'attente de aux besoins de sécurité des Français, et qu'en même temps les candidats sur le terrain, c'est leur travail dans les deux semaines qui viennent, vont continuer à parler d'emploi, de transport, de santé et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc il n'y a pas de raison de changer de stratégie par rapport à cela. Voilà, sur le discours du Premier ministre, il pèse. Actuellement sur l'opinion publique française, je pense que c'est bien suffisant. Quoi.
Pour revenir sur ce qu'a développé Roselyne Fèvre il y a quelques minutes, on se posait la question ces derniers mois en se disant qu'on aurait peut-être la clé un petit peu plus tard de l'axe que choisirait François Hollande, dont on sait qu'il est en pré-campagne. Est-ce qu'il chercherait davantage à rassembler une partie de sa gauche, ou est-ce qu'il se poserait davantage au centre? On a eu le sentiment que de facto, avec les événements, avec les positions, les choix qu'il a fait hier au congrès de Versailles, c'est fait. Dorénavant, il sera sur un espace politique au centre. Est-ce que voilà le paysage, en tout cas, c'est
moi, je me méfie à des analyses à chaud comme ça. Voilà. Mm-hmm. Je pense que vous en méfiez aussi. Bon, ça fait combien? 4 jours? 4 jours qu'ont eu les attentats. Donc, moi, je ne sais pas ce que fera le président de la République après les élections régionales. Bon, pour lui, l'urgence, c'est de répondre à ce qui s'est passé vendredi. Voilà. Après, de savoir s'il est candidat ou pas, c'est-à-dire que c'est une question qui arrivera en son temps.
Oui.
De savoir si le meilleur dispositif politique, je pense qu'il faut laisser aussi d'abord passer les élections régionales, voir y compris la façon dont réagit l'opposition. Bon. Je trouve cet après-midi, par exemple, qu'à l'Assemblée nationale, tout le monde n'avait pas été d'une grande dignité.
Mais François Lévy,
ne soyons pas très, très hypocrites.
Non, je ne suis pas hypocrite. Je dis simplement que ça fait 4 jours que les attentats ont eu lieu, que la tête des politiques, elle n'est pas forcément aux prochaines élections.
Bien sûr. Mais il y a quelques jours avant les attentats, on se demandait comment François Hollande pouvait s'en sortir, s'il pouvait encore même se représenter, puisqu'il s'était embarqué dans cette histoire d'inversion de la courbe du chômage. Même si on savait que la courbe allait un peu se redresser, il n'allait pas totalement l'inverser, et qu'il pourrait être élu vraiment par un tout petit trou de souris ou par accident, comme en 2012, on va dire, un peu par défaut.
C'est vous qui le dites, mais bon.
Non, mais on sait parce que, voilà, parce que bah, on dit qu'il a été élu plus par le rejet de Nicolas Sarkozy que par adhésion. Mais aujourd'hui, est-ce que là, pour le coup, ce trou de souris devient béant? Est-ce que il devient réellement celui qui aura... protéger les Français.
Je suis désolé pour vous, mais
oui, mais il change son image, c'est dramatique à dire, mais
crois pas, enfin, je ne peux pas répondre à cette question 4 jours après ce qui s'est passé, alors que.
Vous ne voulez pas y répondre, mais.
Non, parce que tout
simplement.
Je sais
qu'on en parlera hors micro.
Et non, mais même pas, c'est que, je veux dire, on est dans une situation, quand même, où, je veux dire, les victimes sont pas encore toutes identifiées, où il y a encore des terroristes
qui sont en cavale,
et vous croyez qu'on pourrait être, nous, étant...
Vous dites qu'il a été à la hauteur.
Oui, il a été à la hauteur du moment, et il le sera encore, mais la question n'est pas de savoir, pour l'instant, s'il va profiter des événements pour tout d'un coup retrouver un espace politique et se présenter à la prochaine élection présidentielle.
Mais les Français, ils cherchent quoi, à votre avis, François Lamy?
Je crois que pour l'instant...
Ils cherchent un homme à la hauteur? Est-ce que c'est cet homme, François Hollande?
Pour l'instant, les Français, ce qu'ils cherchent, c'est à comprendre ce qui s'est passé vendredi, je crois, et ce qu'ils cherchent, c'est de savoir si, lorsqu'ils vont, leurs gamins vont aller dans un spectacle la semaine prochaine à Paris, s'ils vont être en sécurité ou pas. Je les comprends. Et je les comprends parce que c'est ça le principal. Après, ces questions-là, elles viendront en leur temps.
Est-ce que la participation, finalement, au premier tour des régionales va pas donner une réponse à cette question, à savoir, est-ce que l'électorat de gauche va effectivement réadhérer au message présidentiel, puisque de facto, la campagne régionale est devenue une campagne nationale?
Voilà, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que le premier, moi, ce que je demande aux électeurs de gauche, c'est la meilleure des réponses par rapport aux terroristes, c'est d'aller voter, déjà. Voilà, et de se rendre compte de l'enjeu. On peut pas, dans la période actuelle, laisser passer un scrutin comme ça parce que on n'est pas content ou de la situation politique nationale. Voilà, le fait de voter même. Bon, et puis voilà, sur en tout cas dans le Nord-Pas-de-Calais et Picardie, mais il y a pas que là, en PACA aussi. Voilà, on a la montée de l'extrémisme, on a la montée du Front National, et là c'est de la responsabilité de chaque citoyen. Bon, et on voit bien les dangers pour la société française de ce qui vient de se passer. Les risques de division, de stigmatisation qui sont à l'œuvre actuellement, qui font partie du discours de naturel, classique de Marine Le Pen. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'elle a changé. Je pense qu'elle s'adapte. Parce que, voilà, mais qu'elle n'a pas changé,
alors,
et que
Calais,
le Front National n'a pas
changé.
Vous
avez Calais, est-ce que Calais est un point noir dans cette campagne ou...
Ça, c'est un vrai problème pour la ville de Calais et pour les Calaisiens, ça c'est sûr. Voilà. Après, la question des migrants, elle est instrumentalisée par le Front National. Vous savez, les migrants, il y en a quelques centaines, pour l'instant, qui sont arrivés dans le Nord. Il y a cette poche de fixation, et sur laquelle le gouvernement travaille, qui est un problème complexe, difficile. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a plutôt une instrumentalisation. Voilà, on peut le voir sur le terrain, des gens qui, attisés par le Front National, qui refusent l'arrivée des migrants, alors que les migrants ne sont jamais arrivés. Bon, donc on voit bien qu'il y a une utilisation politique de ce dossier. Et là, je pense que ça doit interpeller les électeurs de gauche, quoi. Il y a un moment où, sur la table, il y aura le bulletin de vote Marine Le Pen. Hein. Bon, et le vrai risque qu'elle soit élue. Voilà, parce qu'on le voit dans les enquêtes d'opinion, il y a un risque. Bon. Donc il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités. Hein.
Eh bien, c'est sur cet appel à la mobilisation que s'achève ce mardi politique. Merci à vous, François Lamy. Je rappelle que vous êtes membre de la commission de la Défense, ancien ministre de la Ville, porte-parole du candidat PS à la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie, candidat qui est Pierre de Saint-Ignan. Merci pour la préparation de cette émission à Audrey Yateni. Merci à Mathias Golcheny pour la réalisation. Et rendez-vous à tous la semaine prochaine, même heure.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.